omnipresent question, who exactly is Banksy?
Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
You know nothing, Jon Snow.
Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crées.
It's going to be legendary.
Culturez-vous, une émission pleine de culture, pleine de pop culture.
Camoulox.
Ouais, c'est pas faux.
Et bienvenue chez Culture et vous, l'émission de culture de Radio Évasion. De culture, oui, mais de culture pop, de pop culture, de culture populaire. Comme les habitués le savent et les petits nouveaux vont le découvrir, ici on parle de pop culture, une culture connue de tous, avec qui on cohabite sans même le savoir. Et comme en ce moment on est franchement en manque, je vous propose une bonne grosse dose directement en intraveineuse, de la pop culture 80s de Derrière les Fagots, une référence, que dis-je, un mythe pour des milliers de fans. Aujourd'hui, je vous parle de Ghostbusters. Je m'appelle Audrey, bienvenue dans Culturez-vous.
Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme?
Si la réponse est oui, n'attendez plus. Décrochez votre téléphone et appelez des professionnels.
SOS Fantôme!
Nos spécialistes sont à votre disposition 24 heures sur 24, où SOS Fantôme passe, les spectres trépassent.
Osez parler, nous sommes prêts à vous croire!
Venkman, Stentz, Spengler, Zedmore, voilà des noms qui pour beaucoup résonnent comme une référence absolue dans le milieu de la culture pop. Ces noms, ce sont ceux des héros du film cultissime des années 80, Ghostbusters, ou SOS Fantôme si on se la fait en version française. Sorti en 84, la même année que le tout aussi légendaire Gremlins de Joe Dante, comme quoi, il y a des joueurs comme ça, 84 donc, la sortie du film. Mais pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, on va se faire un petit résumé rapide. L'histoire, elle est assez simple. Peter Venkman, Raymond Stantz, dit Ray, et Egon Spengler, tous trois docteurs en psychologie et spécialistes du paranormal, bossent ensemble à l'Université de Columbia, jusqu'à leur renvoi respectif pour cause d'absence de résultats. Mais Ray, le passionné, et Spengler, le scientifique psychorigide, décident de créer leur propre agence de chasseurs de fantômes et embarquent avec eux le complètement décalé Peter Venkman. Pour leur QG, ils jettent leur dévolu sur une vieille caserne de pompiers désaffectée et niveau transport, ils investissent dans une Cadillac Corbiard surnommée Ecto-1. Si au départ, c'est un échec cuisant niveau chasse aux créatures de l'au-delà, le destin va vite réveiller la ville de New York qui va se retrouver envahie de fantômes et autres spectres quelque peu encombrants. C'est alors que nos chasseurs vont connaître un énorme succès et devenir la coqueluche de la ville. Trop de succès, trop de gloire et surtout trop de taf, ils embauchent un quatrième larron, Winston Zedmore. Oui mais voilà, rançon de la gloire oblige, ils ne vont pas se faire que des amis. En première ligne, nous trouvons Walter Penn, membre de la commission de protection de l'environnement. Il n'a qu'une idée en tête, stopper ces illuminés et les mettre en tôle. Un autre adversaire, et pas des moindres, va également se faire connaître. Gozer, dieu sumérien, bien décidé à réduire à néant New York et ses habitants. Ce dieu quelque peu belliqueux trouvera deux ambassadeurs de choix pour préparer son arrivée. Dana Barrett en Cerbère de la Porte et son voisin de palier Louis Tully en maître des clés. Nos quatre chasseurs sont alors le dernier espoir de New York pour empêcher Gozer de traverser le portail dimensionnel et débarquer dans notre monde.
SOS Fantôme.
Vous l'auriez pas vu en revenant ?
Trois hommes capturent un fantôme impossible à tuer. Ils sont armés.
Ah 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 ah
ils sont dangereux.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton pauvre corps explose à la vitesse de la lumière.
Ah bon, et ça c'est mal. D'accord. Oui, c'est capital comme tuyau. Merci, Gunn.
Ce sont des professionnels.
Sachez que je suis le PDG de la plus grande entreprise de lutte contre le paranormal dans la vie domestique.
Ah ! Et vous l'avez vu ?
Ils sont le dernier rempart entre vous et la fin du monde.
Cette ville court vers un désastre aux proportions bibliques.
Nous sommes à la veille de l'apocalypse. Attendons-nous à une pluie de pierre et de feu.
Sacrifice humain, copulation entre chien et chat, hystérie collective.
Ta petite amie habite un joli duplex au beau milieu de la foire aux fantômes.
Désirez-vous ce corps qui brûle?
C'est la question piège.
SOS fantômes!
Action!
Tire au but!
Fémigène!
Mettez le paquet!
Prêt!
Alors, si on peut classer Ghostbusters dans ce qu'on appelle les comédies fantastiques, au départ, on n'était pas du tout parti là-dessus. À l'origine du projet, on a Dan Aykroyd, alias Restens dans le film, qui se lance dans l'écriture d'un scénario SF complètement barré sur des chasseurs de fantômes évoluant dans différentes époques grâce à des voyages temporels et autres portails dimensionnels. Une production pharaonique estimée à plus de 300 millions de dollars. Autant vous dire qu'il a eu beau frapper à toutes les portes, il n'a jamais trouvé de financeur. Mais il y a aussi une autre raison à la modification du scénario de base. Au tout départ, Dan Aykroyd était en coécriture avec John Belushi. Pour vous resituer, John Belushi, c'était l'acolyte de Dan Aykroyd dans le célèbre film Les Blues Brothers. Particulièrement proches, le scénario les mettait tous les deux en scène en tant qu'héros principaux. Mais la vie en a décidé autrement. John Belushi décède d'une overdose en 82, soit 2 ans avant la sortie du Ghostbusters, qui est toujours en écriture à ce moment-là. Changement de plan. Dan Aykroyd se remet à l'écriture d'un nouveau scénario et pour l'aider, il va faire appel à Harold Ramis. Harold Ramis, au-delà d'être l'impeccable interprète d'Egon Spengler dans Ghostbusters, est aussi un scénariste et réalisateur que l'on connaît notamment pour l'excellent Un jour sans fin, qu'il a réalisé en 93. Nouveau décor, nouveau personnage, mais toujours la même toile de fond, la chasse aux fantômes. Et si ce thème est récurrent, ce n'est pas lié au hasard. Dan Aykroyd a toujours baigné dans le milieu du surnaturel. Son arrière-grand-père était expert en psychisme et adepte de spiritisme. Son grand-père a créé un appareil censé capter les voix des esprits, et quant à son père, il était un collectionneur hors pair de revues et autres ouvrages touchant au sujet. Si on n'est pas réceptif et légèrement traumatisé avec tout ça... En tout cas, on a une nouvelle version du scénario, et si on a déjà les deux premiers interprètes avec Dan Aykroyd en Raymond Stantz et Harold Ramis en Egon Spengler, qui pourra bien prendre la suite de John Belushi pour jouer le décalé Peter Venkman? Eh bien, c'est l'iconique Bill Murray qui assurera le rôle du professeur. Et si celui-ci, qui a l'habitude d'être particulièrement difficile à convaincre pour un rôle, accepte de jouer Peter Venkman, il exigera de se faire financer son prochain film par studio. Ou que c'est malin! La Columbia accepte et le remake du film de 46, Le Fil du Rasoir, sortira dans la foulée du premier SOS Fantôme. Drôle, décalé et en roue libre dans Ghostbusters, il apportera sa touche d'impro et son charisme légendaire à ce rôle auquel il donnera toute sa dimension. Un poil loser et carrément séducteur, c'est grâce à sa société de chasseurs de fantômes que le professeur Venkman va rencontrer Dana Barrett, alors touché par des interventions plus qu'étranges dans son appartement.
La voix a dit Zoom. Alors j'ai claqué la porte du réfrigérateur et je suis partie. C'est arrivé avant-hier et depuis, j'ai pas remis les pieds chez moi.
C'est assez rare de voir ce type de comportement dans les grandes marques de l'électroménager. Et qu'est-ce que c'était ?
Si je savais ce que c'était, je ne serais sûrement pas là.
Alors écoutez-moi, je vais ramener mademoiselle dans son appartement et lui faire une fouille complète. Une fouille complète de son appartement. D'accord ?
Le rôle de Dana a été décroché par Sigourney Weaver. Venant tout juste de sortir du succès d'Alien, elle n'aura eu besoin que d'une seule audition pour rafler le rôle. En même temps, quand le jour du casting, le réalisateur l'a vu jouer le rôle d'un des chiens possédés de Gowser en grimpant et grognant sur le canapé, il n'a pas cherché plus loin. C'était elle ou rien. Et pour jouer son voisin et compagnon de possession, Louis Tully, on découvre l'excellent Rick Moranis, le même qu'on retrouvera quelques années plus tard dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Si ce rôle de comptable ringard et simplet sur les bords a été sublimé par Moranis, à la base, il était destiné à John Candy. Mais si, John Candy...
Permettez-moi de me présenter Gus Bolinski.
Enchanté.
Je suis le roi de la polka. Je suis avec mon orchestre. Les Kenosha Kickers.
Salut.
Vous ne nous connaissez pas? Ce n'est rien, je ne peux pas vous en vouloir pour ça.
Mais si, John Candy, quand même.
Sur un bobsleigh, il n'y a pas 36 façons de gagner. Il faut pousser au départ. Je sais que j'ai affaire à des divas du stade, convaincus d'être les plus rapides, mais je demande à voir ce que ça donne quand vous poussez un bob de 300 kilos.
C'est bon? Vous l'avez? John Candy, le fameux coach de Rasta Rocket ou encore le sauveur de la mère de Kevin dans Maman, j'ai raté l'avion. Donc, le rôle de Lutely lui était à la base destiné. Mais pour qui pourquoi, il voulait que le personnage soit un espèce d'Allemand avec un accent à couper au couteau et entouré d'une bande de molosses. Les scénaristes ne réécriront pas l'histoire et Lutely rentrera dans les annales grâce à Rick Moranis.
Et au fait, j'y pense, laissez pas votre télé gueuler comme ça quand vous sortez, parce que l'emmerdeur d'en bas, il s'est plaint au gérant.
Oh, c'est bizarre, j'étais sûre de ne pas l'avoir laissé brancher.
Ah bah si, c'est ce que vous avez fait. Alors j'ai grimpé sur la gouttière et j'ai voulu débrancher l'antenne, mais ça, zéro. Alors vous savez ce que j'ai fait? J'ai allumé la mienne, mais à fond. Et comme ça, les gens, ils pensent qu'on a tous les deux une télé déglinguée. C'est ça, alors un de ces quatre, hein, je vous téléphone. Et là, je vais prendre une douche.
Enfin, pour le dernier rôle phare, celui de Winston Zeddemore, on retrouvera Ernie Hudson. Ce rôle était à la base prévu pour Eddie Murphy, mais celui-ci préférera décliner la proposition pour se tourner vers un autre projet, le flic de Beverly Hills. Il y en a qui ont du flair. En tout cas, on peut saluer le choix du casting impeccable, et si le résultat final est aussi drôle, c'est aussi dû au fait qu'une bonne partie de la distribution avait fait ses armes au Saturday Night Live, ou CNL si vous préférez. Alors si en France, ça n'a pas forcément de véritable écho, aux États-Unis, c'est une institution. C'est l'une des émissions les plus connues et reconnues en termes de stand-up, sketch et autres parodies. Depuis les années 70, elle aura vu passer du drôle de beau monde. Mike Myers, Will Ferrell ou encore Chris Rock faisaient partie des habitués du show. Allez, avant d'aller plus loin, on va se faire un sacré gros kiff en écoutant l'inébranlable tube de Ray Parker Jr., Ghostbuster, bande originale du film.
Busting makes me feel good.
De retour sur Radio Évasion, vous écoutez toujours Culturez-vous et vous venez d'entendre un extrait de la bande originale du film et sujet du jour, Ghostbusters. Et pour la petite anecdote, ce fameux morceau de Ray Parker Jr. nommé aux Oscars dans la catégorie meilleure chanson originale a été accusé de plagiat. C'est l'artiste Huey Lewis, auteur du tout aussi culte Power of Love de Retour vers le futur, qui accuse Monsieur Parker d'avoir largement repris les bases de son titre I Want a Drug. Mais comme souvent dans ce genre d'affaires, un accord à l'amiable sera trouvé et l'affaire classée. En tout cas, je vous laisse aller jeter une oreille sur les deux versions et vous faire votre propre avis là-dessus. Mais trêve de sale histoire, revenons-en à nos petits moutons fantomatiques. Avant notre pause musicale, je vous parlais du scénario et du casting chic et choc d'SOS Fantôme. Reste à trouver producteur et réalisateur prêts à se lancer dans l'aventure. Pour le réalisateur, les deux compères se tournent vers Ivan Reitman. Réalisateur des deux SOS Fantômes, on le connaît également pour d'autres comédies qui viendront plus tard, telles qu'Un flic à la maternelle, Junior ou plus récemment Sex Friends. Oui, bon, on peut pas être bon tout le temps. Celui-ci ira donc voir son ami Frank Price, dirigeant du grand studio Columbia, pour lui présenter le film. Frank Price est intéressé par le projet, mais s'interroge forcément sur son prix. Ivan Reitman lui annoncera directement un plus ou moins 30 millions de dollars. Ok, c'est vendu. Mais par contre, si Price valide le projet, il émet une condition et pas les moindres. Le film devra se faire en 12 mois top chrono.
I accept that challenge.
Harold Ramis, Dan Aykroyd et Bill Murray fonceront s'enfermer pendant 3 semaines dans une maison, histoire de peaufiner complètement le scénario. Les repérages et tournages se feront dans la foulée. Alors forcément, quand on bosse dans l'urgence, il faut souvent faire appel au système D. Et pour le coup, les équipes techniques ont suivi le principe à la lettre. Comme pour créer l'effet visuel du célèbre Bouffe-tout, l'espèce de créature toute verte qui se goinfre tout le temps.
J'appelle Ray. Tu m'entends ?
Reitman ? Je l'ai vu !
Il est juste en face de moi, là. Il me regarde tranquillement.
Ça ressemble aux enzymes gloutons, hein ?
Fais gaffe, il pourrait t'entendre.
Surtout ne bouge pas ! Il ne te fera aucun mal !
Reitman ! Reitman ! C'est moi !
Beckman, qu'est-ce qui s'est passé? Rien de cassé?
Il m'a tout englué.
Oh, c'est génial. Contact physique authentique. Et tu peux te relever?
Ray, à toi, Ray.
Oh, ce que je me sens poisseux.
C'est pas clair? Je suis avec Beckman.
Oh,
il s'est fait tout engluer.
Super. Garde-moi un échantillon. Rapide-toi ici tout de suite. Il vient d'entrer dans la salle de bal.
N'arrivant pas à avoir l'effet spécial escompté, l'équipe a eu la riche idée de remplacer Bouffe-tout à l'image par une simple cacahuète peinte en verte. Un petit montage et 2-3 bidouilles plus tard et nous voilà avec notre célèbre revenant. Et ce revenant, il était essentiel pour Dan Aykroyd. En effet, quand il a réécrit le scénario, il a créé le personnage de Bouffe-tout en hommage décalé à son ami disparu, John Belushi, qui était pour lui un grand fêtard et un épicurien dans l'âme. Dans le genre bricolage, on retrouve l'iconique Cadillac Ecto-1. Alors autant sur le tournage de Retour vers le futur, les gars avaient anticipé le coup et préparé 3 DeLorean, autant ici, avec si peu de temps, l'équipe n'avait qu'un seul modèle de voiture. Celle-ci, un brin vieillotte, n'a pas tenu tout le long du tournage et leur a fait le coup de la panne. Heureusement pour eux, la plupart de ces grandes scènes avaient été tournées. Et enfin, toujours dans les techniques de bricole d'effets spéciaux, on se rappelle tous du bibendum Chamallow et son petit bonnet marin. Sorte de Godzilla sucré semant la terreur dans toute la ville.
Choisissez l'apparence de votre destructeur.
Oh, ça y est, oui, ça y est, j'ai compris. Affûté et astucieux. Si par hasard on pense à Staline, par exemple, hein, et ben Staline, il va apparaître et nous détruire, d'accord? Alors faites le vide en vous. Allez, videz-vous la tête, ne pensez à rien, c'est notre seule et dernière chance, attention.
Le choix est fait.
Oh.
Le voyageur est arrivé.
Non, personne n'a choisi quoi que ce soit. T'as choisi quelque chose, toi?
Non.
Et toi?
J'ai la cervelle en sauce blanche.
Mais moi, j'ai rien choisi du tout.
Je l'ai pas fait exprès.
Ça a fait j'boum là-dedans.
Quoi? Qu'est-ce qui a fait j'boum là-dedans?
J'ai essayé de penser.
Regardez!
Oh non! C'est pas possible!
Qu'est-ce que c'est?
C'est pas possible!
Raymond, mais qu'est-ce que t'as fait?
Oh merde! Eh oui, c'est bien le biba d'homme chamallow.
Alors, si l'idée de jeter des milliers de chamallows sur la foule de figurants a vite été mise de côté, l'équipe technique a su trouver la solution pratique. Enfin, pratique, je sais pas. Mais toujours est-il qu'ils ont déversé pas moins de 500 bouteilles de mousse à raser pour symboliser les vestiges du corps de ce cher bibin d'homme sur la foule qui a dû être ravie de cette belle journée de tournage. Mais donc, si on remet tout dans l'ordre, on a un casting de dingue, un scénario au poil et une deadline de tournage dans le genre Mission Impossible. Bingo, il n'en faudra pas plus pour tout déboîter. Le film rapporte plus de 295 millions de dollars à travers le monde et devient la comédie la plus rentable de l'histoire aux États-Unis, avant d'être détrôné par un certain Maman, j'ai raté l'avion.
Culturez-vous, une émission de pop culture présentée par Audrey.
Alors forcément, avec un succès pareil, les studios de la Columbia trépignent d'impatience de voir la Dream Team renfiler les combinaisons et de recharger les packs de protons. Oui mais voilà, ce n'est pas si simple de convaincre tout ce petit monde. Le scénario était un one-shot pour Harold Ramis et Dan Aykroyd. Alors en attendant la validation des troupes, les studios développent une armada de produits dérivés et lancent leur dessin animé The Real Ghostbusters, qui connaîtra 7 saisons. Mais enfin, en 1989, la suite de Ghostbusters sort en salle. Pour le titre, on y ajoute seulement un petit 2 et pour l'histoire, on repart à la chasse aux grands méchants revenants. On retrouve nos quatre compères, 5 ans après la gloire, en mode has-been, obligés de se colter des anniversaires pour enfants ingrats ou de présenter des émissions ringardes pour gagner leur croûte. Mais encore une fois, cette sacrée ville de New York réserve de bien belles tribulations à notre chère équipe. Cette fois, c'est le fléau des Carpates Viggo qu'ils vont devoir affronter. Seigneur de guerre et sadique avéré, Viggo a besoin d'un enfant innocent pour reprendre forme et venir semer la mort sur le monde. Et forcément, l'enfant choisi par le sbire possédé de Viggo ne sera pas un inconnu du bataillon. Il s'agit en effet du petit Oscar, fils de Dana Barrett, héroïne du premier volet d'SOS Fantôme et ex de Peter Venkman. Toutes ces péripéties sous fond de slime et autres statues de la liberté posent le décor de cette suite.
On est les plus beaux, on est les seuls casseurs de fantômes.
Nous voilà !
SOS Fantôme. Oui, nous revoilà.
Something strange going on. Something's wrong.
Room in the room. Outside is the storm.
All hey, alone. Keep up. L'exercice liquide ou mon abos.
Yo, is that what I did? Did I see something move?
Chills on your spine. Your heart goes with fright. Not filled by the things
that go bump in the night.
Walk through the wall.
With no time to stall.
You call the Ghostbusters.
Well, that's who you call.
Non, attends, ne t'inquiète pas. Nous n'allons pas déménager. C'est lui qui va le faire.
Qu'est-ce que c'est qu'on appelle ?
SOS Fantôme !
Toujours aussi créatifs, nos scénaristes ont été bien inspirés sur ce deuxième volet. Pour le personnage de Viggo, par exemple, ils se sont basés sur un véritable tyran du XVe siècle, Vlad Tepes l'Empaleur, qu'on surnommait aussi Dracula. Et si on retrouve à l'affiche tout le casting original du premier opus, on découvre également Peter McNichol dans le rôle du docteur Janosch Poa, qui sera possédé par notre célèbre Viggo. On retrouvera Peter McNichol quelques années plus tard dans la série des 90s Ally McBeal. Mais surtout, en 93, lors d'une autre suite qui vaut le détour, les valeurs de la famille Adams. En tout cas, même si le film aura essuyé quelques critiques, il réalisera un démarrage historique en termes de recettes. Quasiment 30 millions, rien que pour le premier week-end. Court mais intense, le record sera battu la même année avec la sortie du Batman de Tim Burton. Décidément, tout est lié dans cette émission.
Ghostbusters!
Toujours sur Radio Évasion dans l'émission Culture et vous. Et vous venez d'entendre un extrait de Ghostbusters des Run-DMC qui nous vient de la bande originale des SOS Phantom 2. Parce que oui, aujourd'hui, Culture et vous part à la chasse à l'ectoplasme avec les cultissimes héros de Ghostbusters. Si avant la pause, je vous parlais des classiques des années 80, nous devons maintenant aborder la suite des événements. Alors j'ai toujours beaucoup de mal avec le principe de reprendre des films iconiques pour les mettre au goût du jour. Pourquoi vous ne les laissez pas tranquilles, franchement? Est-ce que Predator avait réellement besoin de sa version de 2010? Est-ce que ce pauvre Robocop était obligé de subir un remake en 2014? Et je ne vous parlerai évidemment pas de ces pauvres Tortues Ninja qui sont partis en dépression totale suite au reboot de 2014. Alors quand en 2016 sort le reboot de Ghostbusters, franchement, je suis plus que sceptique. Alors petite précision au cas où, un reboot c'est une nouvelle version et non une suite. Mais avant cette nouvelle version donc, une véritable suite était envisagée. Et l'idée de base pouvait être chouette. Aux manettes de cette potentielle suite, on retrouve nos deux acolytes, Ray et Egon, aka Dan Aykroyd et Harold Ramis, les acteurs et scénaristes du premier film, des deux premiers films. Parti sur une idée de reprise des personnages de base, mais en mode passage de relais à la jeune génération, le film était d'abord annoncé pour 2011. Finalement, Ivan Reitman, qui devait à nouveau réaliser le film, stoppe l'aventure. Une nouvelle équipe est chargée de continuer l'écriture du scénario. Nous sommes en 2012. 2014, Harold Ramis décède à l'âge de 69 ans d'une longue maladie. À nouveau, les cartes sont rebattues pour l'équipe du film. C'est donc en 2016 que sort sur nos écrans un reboot et non plus une suite du film. Réalisé par Paul Feig, il met en avant un casting entièrement féminin, composé de Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McNichol et Leslie Jones. Chris Hemsworth viendra apporter une touche masculine au film. Bon, le film, il est ce qu'il est. Mais on peut quand même souligner le fait qu'il met en avant, en tant que personnages principaux, une équipe composée uniquement de nanas. Ce qui n'est pas vraiment une habitude dans le monde merveilleux du cinéma international. Et en plus, ces nanas, elles envoient du bois. Beaucoup moins connues en France, ce sont des comiques ultra populaires aux États-Unis.
Vous écoutez Culture et vous, une émission de culture pop présentée par Audrey.
Nous voilà en 2021. Et cette année, ce n'est pas un nouveau reboot qui s'annonce, mais bel et bien une suite. Ce coup-ci, on retrouve une toute nouvelle génération, représentée par les petits-enfants du regretté Egon Spengler. Pour l'incarner, on a tout d'abord McKenna Grace, jeune actrice de 15 ans, habituée des créatures de l'au-delà. Elle a déjà en effet tourné dans Amityville ou encore Annabelle et la Maison du Mal. Pour incarner son frère, on retrouve Finn Wolfhard. Les connaisseurs reconnaîtront le nom de l'interprète de Richie dans le second chapitre de Sale Clown, mais aussi de Mike Wheeler, héros de la série Stranger Things. Et n'est-ce pas une bien jolie forme de boucle bouclée ? Quand on sait que pour la saison 2 de la série Stranger Things, les quatre amis étaient déguisés en Ghostbusters pour fêter Halloween. Et toujours dans cette idée de bouclage de boucle, le réalisateur de cette suite n'est autre que Jason Reitman, le fils d'Ivan Reitman, le réalisateur des deux premiers SOS Fantômes. Alors on ne sait pas ce que donnera cette nouvelle version, mais pour vous donner une idée de qui est Jason Reitman, on peut parler de ses précédentes réalisations. Notamment Juno, avec Elliot Page, film nommé et récompensé aux Oscars de 2007, ou encore D'Indier, avec George Clooney, lui aussi nommé dans plusieurs catégories aux Oscars de 2010. Voilà qui pourrait nous rassurer. Ça, et le fait que le casting original ait décidé de rempiler pour cette nouvelle version. Oui, oui, même Bill Murray a dit oui, c'est dire. Croisons les doigts donc que cette version nous rende heureux d'aller au cinéma, et pas juste parce qu'ils sont réouverts. Mais nous devrons patienter jusqu'au mois de novembre pour jauger tout ça. Et si vous voulez vous replonger dans les résidus ectoplasmiques et redécouvrir ces classiques du cinéma que sont les Ghostbusters 1 et 2, ils sont disponibles sur une certaine plateforme de streaming qui commence par net et se termine par X. Mais tchit, pas de marque. En tout cas, peu importe la suite de l'histoire, les deux premiers volets de cette saga resteront pour beaucoup un véritable symbole des années 80 et de la pop culture en général. En attendant la prochaine émission, qui sera sans aucun doute pleine de pop, pleine de culture et pleine de pop culture, je vous fais des bisous, des bécos, et vous dis à tantôt.
Omnipresent question. Who exactly is Banksy?
Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
You know nothing, Jon Snow.
Toi tu crèves.
It's going to be legendary.
Camoulox.
Ouais, c'est pas faux.